La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Au menu de notre club cet après-midi, un ingénieur aventurier et nomade des mers, un artiste plasticien et une chercheuse en biologie qui se sont associés pour créer de la dentelle capable, écoutez bien, de sauver les barrières de corail. Et puis également un botaniste amoureux des arbres qui est allé voir dans les œuvres d'art comment les peintres justement ont représenté les arbres. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Cette nuit, l'Europe s'envole vers la planète Mercure et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Oui, l'ambitieuse mission Bepi Colombo sera lancée cette nuit depuis la Guyane. Nous serons en direct depuis la base spatiale de Kourou dans un instant pour les derniers préparatifs.
On essaiera de s'envoler là-bas nous également. Fanny Bouillon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier et Lucie Sarfati.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Villard. Sur France Inter.
Et bienvenue à nos invités cet après-midi, Isabelle Domard, Coulon, Corentin de Châtel-Perron, Jérémy Gobet et Christophe Drenou. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Et bienvenue Corentin de Châtel-Perron. À partir du 29 octobre, Arte va diffuser cette série Nomades des mers, les escales de l'innovation, dont vous êtes le personnage principal. Série documentaire qui raconte votre tour du monde en catamaran. Quel était l'objectif exactement de votre voyage ?
Trouver les meilleures innovations low-tech du monde, celles qui répondent à des besoins de base, accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, et qui peut être faite partout dans le monde localement et qui respecte l'environnement.
Et d'être autonome sur votre bateau, en l'occurrence. On va en parler avec vous pour savoir comment vous avez réalisé tout ça. Jérémy Gobet et Isabelle Domard-Coulon, vous êtes artistes, l'un artiste, l'autre biologiste, et tous les deux, vous avez donc créé ce projet Corail Artefact qui vise à sauver la barrière de corail avec de la dentelle. C'est une drôle d'idée, Jérémy Gobet, mais en tout cas, c'est un très bel exemple d'association entre art et science, là on est vraiment dedans. Hein.
Oui, tout à fait, je dirais même art, science et industrie. L'idée, on rêve de pouvoir apporter une amélioration à la condition du corail actuellement. Et l'association de ce projet permet d'avoir des belles perspectives et en tout cas de faire un focus complet sur les problèmes des coraux actuels.
En tant que biologiste, Isabelle Domard-Coulon, est-ce que la dentelle va vraiment pouvoir sauver les coraux à votre avis ?
Ça, je ne pourrais vous y répondre qu'après avoir fait un certain nombre de recherches. Là, actuellement, on a juste commencé à... On a commencé par avoir une idée.
Ouais.
On a commencé à en parler, à se questionner mutuellement et ça a débouché sur des questions qu'on a mis en forme d'expérience. Et donc, on est en train de faire des expériences. Et les premiers résultats montrent que la dentelle, oui, pourrait être un support intéressant pour faire pousser du tissu corallien.
Ouais, l'idée est vraiment géniale, en tout cas. On va la décrire avec vous dans un instant. Puis on décrira aussi ces œuvres d'art contemporain qui permettent aussi peut-être à la nature de faire des avancées. Et puis Christophe Drenou, vous êtes botaniste, amoureux des arbres. Et donc vous publiez ce beau livre, Arbre, un botaniste au musée, aux éditions Phage. Avec ce regard que les artistes, les peintres ont porté justement sur les arbres. Et alors ça depuis très très longtemps, parce qu'on va quasiment des grottes jusqu'à Kissaring. On fait un grand écart.
Oui, tout à fait. J'ai écrit ce livre pour répondre à une question très simple et qu'on pose souvent. Pourquoi aimez-vous les arbres ? D'où vient cette passion ? Alors, en tant que botaniste, j'avance souvent des arguments scientifiques, parce que c'est vrai que c'est un sujet d'étude fascinant. Mais la raison profonde, l'origine de mon attirance, c'est la beauté des arbres.
Ils sont beaux en peinture en particulier, on va explorer votre ouvrage dans quelques minutes. Allez, on se retrouve tous ensemble dans un instant avec les messages et les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et en route pour Mercure à la une de la science, Axel, aujourd'hui.
Allez, c'est parti. L'Europe et le Japon s'envolent ce soir ensemble pour Mercure avec l'ambitieuse mission Bepi Colombo. Et c'est parfaitement excitant. C'est la première fois pour l'Europe. La plus petite planète du système solaire, la plus proche du Soleil aussi, a déjà reçu la visite par le passé de deux sondes, toutes les deux américaines. Et voici pour commencer ce que la toute première sonde Mariner nous a permis de découvrir en 1974 lors de son approche historique.
Vu de loin, Mercure ressemble à la Lune, présentant elle aussi de nombreux cratères. Mercure ressemble à un champ de bataille. Écorché et irradié par le soleil si proche, c'est un paysage désolé, fait de cratères et de fissures qui s'offrent à nous.
Voilà, Axel.
Cette nuit, ce sont deux nouvelles sondes qui vont s'élancer depuis la base spatiale de Kourou en Guyane, l'une japonaise et l'autre européenne, chargées sur le lanceur Ariane 5, avec toutes les deux de grandes ambitions scientifiques. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis la Guyane avec vous, Sophie Bécherel de la rédaction de France Inter. Bonjour. Ah, nous ne sommes pas avec Sophie Bécherel de la rédaction de France Inter, qui devait nous donner les dernières nouvelles. Peut-être, Sophie, êtes-vous là?
Allô, Sophie? Est-ce que la liaison est établie? Non, malheureusement, c'est compliqué apparemment d'être en ligne avec la Guyane, Axel.
Peut-être nous aurons Sophie un peu plus tard. Je peux vous parler de ce qui est chargé sur la fusée Ariane. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà les deux sondes dont je vous ai parlé. La sonde européenne qui s'appelle MPO, avec 11 instruments dédiés à la cartographie de la planète. Et il y a la sonde japonaise MMO, Mercury Magnetospheric Orbiter, qui est fournie par le Japon et qui étudiera le champ magnétique. Mais je pense que Sophie, qui est revenue, va vous en parler mieux que nous. Sophie, est-ce que vous êtes avec nous? Et Sophie est donc repartie.
Eh bien, décidément, on n'a pas de chance avec la liaison et je pense qu'on va l'abandonner définitivement parce que ça a l'air d'être extrêmement compliqué. Donc Axel, expliquez-nous un petit peu le principe de cette mission européenne.
Alors, je crois qu'on a une dernière chance avec Sophie.
Sophie, allez Sophie, on va y arriver.
Oui.
Ah, très bien Sophie. Alors j'étais en train de parler de ces deux sondes européennes et japonaises. C'est vous qui allez nous en parler un peu plus maintenant.
Oui, parce que ici, vous vous en doutez bien, il y a une certaine ferveur avant ce tir. Bon, pour l'instant, les satellites sont dans la fusée est sur son pas de tir, la météo est favorable. Pour Arianespace, on pourrait croire à une mission de routine, c'est la 7e de l'année, sauf que l'engin qui est en haut de la fusée est tout à fait exceptionnel. Bepi Colombo, ce sont plusieurs centaines de chercheurs impliqués depuis parfois plusieurs décennies, parce que c'est dans les années 90 que l'Europe a décidé d'aller sur Mercure. Ensuite, les Japonais se sont joints au projet et à l'arrivée, on a une très grosse mission avec 16 instruments, une mission qui comporte 70% de technologies nouvelles et qui vise à éclaircir les mystères qu'avaient soulevés les deux précédentes missions américaines.
Est-ce que c'est la première fois que deux sondes partent en même temps vers une planète du système solaire, Sophie ?
Oui, c'est une première, en effet. C'est une espèce de mécano spatial Bepi Colombo, parce qu'il y a un vaisseau porteur qui va d'ailleurs mettre 7 ans à arriver à destination. Et en 2025, il va successivement larguer la partie japonaise dédiée à l'étude de la magnétosphère et la fine atmosphère aussi de Mercure, et la sonde européenne qui, elle, se rapprochera un peu plus de la surface pour étudier notamment sa géologie.
Alors, de nombreux chercheurs ont travaillé sur les instruments, sur ces sondes, et vous êtes avec l'un d'eux qui est là aussi pour le décollage.
Exactement. François Leblanc est co-responsable de l'un des instruments à bord de la sonde. Il est planétologue au LATMOS, le laboratoire atmosphère, milieu et observation spatiale. Je vous parlais des énigmes qui perdurent autour de cette planète Mercure. C'est la plus petite du système solaire, la plus proche du Soleil. Elle a l'allure de la Terre, le goût de la Terre, mais comme le disait la réclame, ce n'est pas tout à fait la Terre. Quelles sont les différences, François Leblanc ?
Les grosses différences, c'est surtout, par exemple, sa masse par rapport à son volume. C'est une grosse planète en proportion par rapport à la Terre. Et on l'explique par la taille de son noyau, qui est extrêmement important par rapport à celui de la Terre. Et puis, un des grands mystères qu'a mis en évidence l'émission américaine précédente, c'est la présence d'un champ magnétique propre à la planète. Et ça, on s'y attendait vraiment pas du tout lorsque, dans les années 70, a été découvert ce champ. Et donc, le mystère reste un petit peu entier, c'est-à-dire que les missions américaines ont partiellement ouvert certaines hypothèses, mais la mission Bepi Colombo, elle est là pour clarifier ça.
Alors, vous êtes, vous, particulièrement impliqué sur un instrument qui s'appelle Phébus. Qu'est-ce que va faire Phébus ?
Alors, Phébus, c'est une caméra qui va regarder la lumière dans l'ultraviolet et on va regarder l'atmosphère de Mercure parce qu'il y a une petite atmosphère, même si on a l'impression que c'est un petit peu comme sur la Lune, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais dans l'atmosphère, il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a des choses sur la surface, il y a des choses qui vont nous dire aussi comment cette atmosphère interagit avec le Soleil. Et donc, il y a beaucoup d'énigmes encore à résoudre et c'est l'objectif de cette caméra.
Deux sondes pour le prix d'une, entre guillemets. Pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça va apporter comme connaissances différentes des deux missions américaines ?
Les missions américaines précédentes, c'était des missions qui ont voulu faire à la fois donc de la géologie, regarder la surface de la planète. Ils ont voulu regarder aussi l'environnement, la magnétosphère de la planète. Et le problème de vouloir faire tout en même temps, c'est on les fait... Je dirais pas à moitié parce que les sondes américaines ont fait quand même énormément de travail, mais ils ont fait une partie du travail et avec Bepi Colombo, on s'est vraiment donné les moyens de regarder très très bien la géologie de la surface et en même temps très très bien la magnétosphère de Mercure.
En quoi l'étude de Mercure va nous permettre de mieux comprendre le système solaire et est-ce que la formation du système solaire, est-ce que c'est vraiment ça l'objectif ?
Oui, c'est absolument ça. En fait, quand on connaît Mercure un petit peu mieux et qu'on la compare aux autres planètes rocheuses de notre système solaire, on pourrait dire un petit peu de manière outrageuse, je dirais, que Mercure est une anomalie dans le système solaire. C'est une planète très différente des trois autres, de Vénus, Mars et de la Terre. Et donc, comprendre comment Mercure s'est formé, c'est nous répondre aussi un petit peu comment le système s'est formé en général, donc comment toutes ces planètes rocheuses se sont formées.
Alors,
voilà, donc on se donne rendez-vous la nuit prochaine pour vous.
Oui, Sophie, décollage à 3h45, on a bien noté. On peut suivre d'ailleurs ce décollage en direct sur le site de l'ESA ou sur YouTube. Et après, il va falloir attendre 7 ans, Mathieu, puisque l'arrivée prévue, c'est le 5 décembre 2025.
Ouais. Mais on sera là.
On sera là
au rendez-vous, au même endroit, derrière les micros. Et on fera toujours la une de la science. Voilà, merci beaucoup Sophie Bécherel. Donc c'était en direct de Kourou, en Guyane, pardon, pour les petits problèmes de liaison. Mais finalement, nous y sommes arrivés. Axel, je vous souhaite un bon week-end de bonnes vacances.
Merci.
Et on se retrouve très bientôt.
À bientôt.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens, regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui code, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car se griller est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvant d'amour fou et de minerve. Faut oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je mens pour fétiller en douceur, me faire bander aisément dans des rêves lourds, y'a pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui cogne, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Car il me manque cette audace, des prises de position classe avec des je t'aime efficaces, sans les jeux de baise à la ramasse. Il me manque ce petit tac de sursoir pour que ça marche. En attendant, je mets les races, puis je crois en tout ce qui se passe. Je crois que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max. Mais comme Jacques disait des dames, c'est ton pire ennemi qui est en face. Du coup, je fais comme d'hab, je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse, tout en les épiant sous mon masque. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui code, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Je me mens. changement.
Random, c'était la voix d'Eddy de Préto.
La tête au carré, le club.
Avec un ingénieur nomade des mers, de la dentelle pour sauver les barrières de corail et un botaniste amoureux des arbres, avec la peinture évidemment à l'appui de ce sujet. Et on vous attend bien sûr avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque pour discuter avec nos invités. Corentin de Châtel-Perron, vous êtes justement notre premier invité, héros d'une série documentaire Nomade des mers, les escales de l'innovation. Ce sera très bientôt sur Arte à partir du 29 octobre. Ce sera en semaine donc à 17h30 du lundi au vendredi. Il y aura combien d'épisodes à peu près sur la série ?
15 épisodes.
Ouais, 15 escales à chaque fois, finalement ?
Oui, c'est 15 escales différentes qui, à chaque fois, racontent comment on a rencontré un inventeur d'une low-tech, on la fabrique ensemble, la low-tech, et puis ensuite on la teste sur le bateau, et puis voilà, on raconte à quel problème répond cette solution.
On va écouter la bande-annonce, justement, de la série.
Je m'appelle Corentin. Je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. C'est système D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde.
Corentin, qui êtes-vous exactement et de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque les low-tech alors ? Parce qu'on ne connaît pas encore très très bien ce mot.
Alors qui suis exactement ?
Ce serait vachement... Vous êtes Vanté déjà pour commencer, hein, ouais, c'est le point de départ de l'histoire.
Je suis breton et je suis ingénieur généraliste. Et alors, effectivement, je recherche autour du monde les meilleures innovations low-tech. Mmh. Et ce qu'on appelle des innovations low-tech, c'est des innovations qui répondent à trois trucs. C'est des innovations qui sont utiles, donc en général qui répondent à un besoin de base comme l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, le recyclage, etc. C'est des innovations qui sont accessibles à tous, à la différence avec les high-tech, donc qui ne demandent pas des compétences très particulières ou des outils très complexes. Et enfin, qui sont respectueuses de l'environnement, durables, etc.
Oui, donc il y a un petit cahier des charges quand même à respecter. Et le pari pour vous, c'est de pouvoir être autonome justement sur ce catamaran qui vous a emmené à travers les mers du globe. C'était ça l'idée ?
Alors le premier pari, c'est de trouver toutes ces innovations, les tester et les bonnes innovations, les diffuser au maximum de monde pour qu'ils puissent aux quatre coins du monde les répliquer, puisque quelquefois, il y a des gens qui inventent des super innovations low-tech, mais qui restent à échelle locale, oui, alors que quelquefois, elles pourraient servir à des millions de personnes. Donc nous, notre job, c'est de les trouver, les documenter et de les diffuser en open source.
C'est ça.
Et pour ça, on s'est donné comme mission, comme moyen de tester toutes ces innovations nous-mêmes en tant que cobayes. Et donc, à chaque escale du bateau, on embarque une nouvelle low-tech avec le but de la tester, de vivre avec et de rendre le bateau autonome.
Voilà, et de rencontrer les gens sur place, parce que c'est ça aussi qui est très malin finalement dans ce projet, c'est que c'est l'aspect collaboratif. Hein. Dans tous les pays, il y a des idées extraordinaires, donc il suffit simplement de mettre tout le monde en réseau, quoi. Hein.
Exactement. Alors pour l'instant, on a fait 12 escales. Enfin, on a fait des escales dans 12 pays,
ouais,
et on a documenté une quarantaine de low-tech qui sont géniales et qui sont hyper prometteuses pour des problèmes de déforestation, de malnutrition, de pollution, etc. Et en fait, le bateau en ce moment est qu'en Thaïlande. On est que à 90 degrés à droite, en gros, ouais, par rapport à la Bretagne. Et il nous reste plein d'innovations géniales à découvrir.
Ouais, Isabelle Demarcoulan, je vous écoutez très attentivement Corentin. Ça a l'air de vous intéresser pas mal.
Je trouve ça très joli comme histoire et c'est vraiment pour moi c'est très élégant d'aller demander à chaque personne, à chaque peuple des innovations auxquelles ils ont pu penser et puis de les partager surtout avec tout le monde, c'est très élégant.
Vous n'avez pas travaillé sur le corail d'ailleurs parce que c'est le travail de recherche d'Isabelle.
Non mais ça m'intéresserait de savoir s'il y a des innovations low-tech liées à ça.
Bon, ben peut-être qu'à l'issue de cette émission, vous aurez en tout cas des réponses à cette question. Donc je le disais, vous êtes breton, Vanté, donc forcément il y a de la voile dans votre parcours. Ça fait longtemps que vous barrez des bateaux, Corentin ?
Non, je suis pas un fan de bateaux à la base, mais là c'est un super moyen pour le projet.
Et aller
d'un pays à l'autre avec cette espèce de caravane flottante en fait, dans lequel on peut faire tous nos tests. C'est un vrai laboratoire à bord. Et voilà, après faire du bateau, ça pose aussi quelquefois des petits problèmes dans les tempêtes, etc.
Ouais, effectivement. D'ailleurs, c'est le début de cet épisode à Madagascar, hein, où vous avez suivi une grosse tempête quand même. Hein. Il y avait des creux de 6 mètres, je crois. Un vent à combien de nœuds à peu près ?
Il y a eu des vents à 50 nœuds et c'est vrai que c'est pas les moments les plus agréables du voyage.
Ouais, et comment vont vos poules d'ailleurs ? Parce que vous avez embarqué des poules à bord. C'était pour avoir de quoi manger tout simplement ?
Oui, pour avoir des œufs et puis pour les protéines et puis aussi pour pour faire des tests avec les fientes de poules. En fait, on a un système de biofiltres qui transforme des déchets organiques, comme des fientes de poules, en nutriments pour les plantes qu'on fait pousser en hydroponie.
Et c'est quoi l'hydroponie exactement?
C'est de la culture. Alors ça, on a vu ça au Cap-Vert. C'est Sergio, un Cap-Verdien, qui a mis au point un système de culture hors sol qui divise au moins par 3 la consommation d'eau. Et ça répond à un problème au Cap-Vert parce que ils doivent importer 80% de leur nourriture parce que c'est trop aride. Il pleut que 2-3 mois par an. Et donc lui, grâce à ce système simple, arrive à faire pousser des plantes toute l'année.
Alors justement, toutes ces idées, elles sont regroupées aussi dans un ouvrage qui sort finalement en même temps que le documentaire qui s'appelle Nomades des mers, le tour du monde des innovations. C'est chez Arte Éditions et EPA aussi, c'est le nom de l'éditeur.
Oui,
on retrouve justement toutes ces idées que vous avez glanées aux quatre coins du monde. Et on va partir ensemble à Madagascar, puisque là-bas, c'est une algue qui vous a intéressé, la spiruline. On connaît bien son nom, vous la connaissez aussi, Isabelle Domar-Coulon.
Oui, c'est une algue qui a des propriétés nutritives très intéressantes.
Vous dites que c'est une bombe nutritive, la spiruline.
Ah ouais, c'est vraiment génial. Et puis ce que fait cette dame qui cultive la spiruline est remarquable.
Ouais, donc c'est une malgache, vous l'avez rencontrée sur place et on fait connaissance avec vous.
Pour améliorer notre rendement, on se rend à l'université de Tuléar où nous avons rendez-vous avec deux spécialistes de la culture de spiruline.
Bonjour.
Salut les nomades.
Docteur, enchanté.
Les docteurs Voula Bemiarana et Aza Raharisson.
Ah, ça a l'air super concentré. Ça a mis du temps avant de maîtriser bien le procédé, puisque vous étiez pionnière ici.
Oui, la recherche sur la spiruline n'a que commencé qu'à partir de 1998.
Au moment où vous êtes décidée à
vous lancer. Oui, et c'est à cette époque-là qu'on a pensé à la culture en bassin contrôlé.
L'efficacité de cette culture est incroyable. Pour produire 1 kg de protéines à base de spiruline, il faut 50 fois moins d'espace de culture et 300 fois moins d'eau que pour produire 1 kg de protéines à base de viande de bœuf.
Voilà, donc vous avez mis beaucoup d'espoir sur la spiruline à bord de votre bateau. Ça prend une place folle quand même, parce que expliquez-nous ce qui se passe dans le catamaran. D'abord, vous étiez combien? Vous étiez 3?
On est 4 en général.
4, c'est ça. Et donc, il y a une grande place qui est dédiée précisément à toutes ces innovations et la culture de la spiruline, ça prend beaucoup de place.
C'est vrai que, alors on le fait en version assez réduite par rapport à ce que Madame Vola fait à Madagascar. Elle a carrément des piscines de spiruline. Et nous, on a donc environ une centaine de litres sur le bateau. Mais déjà, on peut récolter un petit peu de spiruline et puis surtout se faire la main sur le système.
Ouais, donc c'était quoi? C'était un apport nutritionnel pour remplacer de la viande, par exemple?
Ouais, en fait, ça apporte... En fait, les principales carences dans le monde, qui sont les protéines, vitamines A et fer, la spiruline apporte ces choses-là. Et donc, pour nous, sur le bateau... Ça nous permet d'avoir des protéines, comme avec les œufs, etc.
Alors, sauf que justement, les scientifiques malgaches vous ont donné des idées pour, sur le bateau, prendre moins de place et essayer d'avoir un rendement un peu plus important, parce que c'était limite quand même pour vous, là.
Ouais, en fait, sur le bateau, comme le bateau bouge aussi, c'est pas évident d'avoir de l'eau, en fait, une surface libre. Et du coup, leur astuce, c'était de faire passer la spiruline par un tuyau.
Tout autour du bateau, c'est ça? Tout autour du catamaran,
pour qu'elle prenne la lumière. Alors, ça a pas très bien marché. Plusieurs mois après, on a dû changer le système. Mais c'était intéressant de tester.
Ouais. Et vous avez pu vraiment vous nourrir avec ça?
Ouais, c'est vraiment hyper facile. En fait, ce qui est génial sur ce savoir-faire low-tech, c'est que c'est facile à diffuser parce que ça demande pas beaucoup de compétences. Mm-hmm. Donc ça peut être diffusé via des tutos écrits ou vidéos tutos et ça demande très peu de ressources et on peut commencer avec juste le contenu d'un aquarium avant de se lancer à plus grande échelle.
Ouais. Alors donnez-nous des nouvelles des poules quand même s'il vous plaît, parce que des poules sur un catamaran, les pauvres, moi j'ai pensé, je me suis dit, mais que ces animaux ont dû être extrêmement malades. Non, est-ce qu'elles ont pondu d'abord tout simplement?
Ouais, il y a eu plusieurs équipages de poules et il y a eu des poules très bonnes pondeuses et a eu sinon pas mal de galères, notamment avec un coq qui j'en veux beaucoup.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait ce coq?
Parce qu'un coq, ça chante à heure fixe normalement, mais avec un bateau, on change tout le temps de fuseau horaire.
Oui, c'est ça.
Et du coup,
il chantait
n'importe quand, il s'est jamais bien calé.
Il était un peu perturbé. Et les poules avaient le mal de mer de leur côté ou pas?
Non, une poule, c'est très marin en fait.
C'est vrai? Ah bon?
Vous avez déjà vu une poule, ça a la tête dissociée un peu du mouvement du corps.
Oui, ça c'est vrai.
Et sur un bateau, elle gère très bien le truc.
Bon, alors c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, effectivement. Alors les autres problématiques, c'est l'eau potable, ça aussi. Comment vous avez résolu le problème alors sur le bateau pour être autonome aussi là?
Alors sur l'eau potable, on a fait notre première escale au Maroc sur la désalinisation grâce au soleil,
oui.
Ce qui est pas évident. On étudie aussi parfois des low-tech qui sont pas encore très utilisées, qui sont en cours de recherche et développement.
Oui.
Et celle-là, elle est pas encore très utilisée dans le monde parce que c'est un petit peu lent en fait, mm-hmm, de transformer de l'eau salée en eau douce grâce à l'énergie du soleil. Par contre, à Chennai, en Inde, on a étudié une manière low-tech de voir si de l'eau est polluée et aussi une manière de recycler les eaux grises.
Et ça marche bien le procédé alors ?
Et ça marche très bien, ouais.
Ouais.
Ça permet d'économiser de l'eau parce que par exemple l'urine, l'ammoniac de l'urine peut être transformé par des bactéries nitrifiantes en nitrates et autres bactéries, et ça permet de faire une solution nutritive pour les plantes.
Ouais. Et après, vous aviez donc tous les moyens de pouvoir avoir votre autonomie en eau à bord.
Et après, l'autre secret, c'est évidemment d'économiser de l'eau,
oui,
d'en utiliser le moins possible. Et donc, la solution de l'hydroponie, ça divise jusqu'à par 10 la consommation en eau.
Oui.
Et bon, il y a d'autres méthodes aussi pour économiser de l'eau. Et donc, là, on récolte l'eau de pluie et ça nous suffit pour être autonome.
Le recyclage aussi, ça, c'est une des préoccupations à bord.
Ouais. Par exemple, l'éolienne qu'on a faite à Dakar, au Sénégal, elle est faite avec des,
oui,
moteurs d'imprimantes recyclés.
C'est ça.
Et il y en a plein, en fait, des moteurs d'imprimantes qui pourraient se transformer en éoliennes, parce qu'il y a plein d'imprimantes qui sont jetées partout, tous les jours dans le monde. Et donc voilà, le recyclage, on adore ça.
Bon, alors on va faire le tour du monde avec vous à partir donc du 29 octobre sur Arte. Ce sera tous les jours donc à 17h30 dans cette série. Il faut signaler également, Corentin, que vous êtes le président d'une association qui s'appelle Gold of Bengal, parce que vous avez passé beaucoup de temps, je crois, au Bangladesh au départ. Oui. C'est ça qui vous a donné d'ailleurs l'idée de faire la suite. Hein.
Ouais, c'est là que je me suis rendu compte en habitant au Bangladesh que dans des pays où les gens vivent vraiment sous contrainte, parce qu'il y a plein de problèmes au Bangladesh, c'est là qu'il y a une ingéniosité folle qui est déployé pour répondre aux besoins de base grâce aux moyens du bord.
Ouais, et toutes ces idées, on peut les trouver sur un site internet.
Oui, c'est notre espèce de Wikipédia du low-tech qui s'appelle lowtechlab.org.
Et c'est bien, vous avez ramené votre polo avec Low-Tech Lab, ce qui permet de l'avoir sous les yeux, de pouvoir donner la bonne adresse et puis de conseiller aux auditeurs de se procurer cet ouvrage Nomade des mers qui justement fait ce tour du monde des innovations chez Arte Édition. Corentin de Châtel-Perron, donc à voir bientôt sur Arte avec cette série. Vous restez avec nous dans un sens, je suis sûr que ça va vous intéresser, de la dentelle pour essayer de sauver les coraux. Ce sera le prochain sujet de ce club.
Just to change your state of mind. Don't wanna complain about the abuse. It sometimes makes you a little bit furious. You don't want no cocktail, you don't want no champagne. You like the modern loving, and you love your soul. My angel on earth, you're more than you worth. My angel on earth, got a message this morning on my cell phone. I felt my heart bleeding. You don't like the alibis. You're in by those silly guys. You don't want no cocaine. You don't want no champagne. You don't want no cocktails. You love we'll be right back.
so you take it slow.
My Angel, c'était Winston McAnuff.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Lorsqu'un artiste rencontre une biologiste, ça donne un projet avec de la dentelle pour essayer de sauver les barrières de corail. L'idée peut sembler étrange, voire loufoque, mais c'est tout à fait sérieux. Jérémy Gobet, vous êtes artiste plasticien. Isabelle de Marcoulon, vous êtes chercheur en biologie, spécialiste des coraux et des éponges au Muséum National d'Histoire Naturelle. Comment est-ce que vous êtes rencontrés d'abord tous les deux exactement? Dans quel contexte ça s'est fait? Alors c'est Jérémy qui va répondre le premier.
Oui. En fait, moi, ça fait quelques années que j'ai deux inspirations dans mon travail d'artiste, à la fois les usines en fermeture, les savoir-faire industriels passés, les artisanats qui ont du mal à perpétuer leur travail, et aussi d'être ouvert à la rencontre d'objets, de matières. Et un jour, à Emmaüs, j'ai trouvé des squelettes de coraux. Personne ne savait ce qu'ils faisaient là. Et en tant qu'artiste, j'ai voulu les continuer un peu comme l'œuvre de la nature, avec différents matériaux, comme s'ils étaient encore vivants, de remettre de la vie dans ces squelettes. Et ça, d'année en année, en fait, cette recherche artistique s'est développée jusqu'à ce que j'ai envie d'aller plus loin. Et je prépare depuis quelque temps une thèse entre art et science, justement sur le lien entre l'art et la nature à travers le biais de la science. Et ouais. Dans ce cadre-là, en fait...
Ce qui est un vaste domaine déjà en soi. Hein,
tout à fait.
Il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est dans le domaine d'ailleurs de la bio-inspiration? Est-ce que c'est quelque chose comme ça ou pas qui vous intéresse?
Oui, de toute façon, en tant que sculpteur, on peut être que admiratif des formes de la nature. Et je crois que c'est la nature est un peu le meilleur artiste que je connaisse. Et sans faille, et toujours pleine de curiosité. Donc ouais, c'était forcément une source d'inspiration énorme. Et en fait, je parlais un peu de ce projet autour de moi, et Michel Ignette, qui travaillait avant à l'aquarium tropical Palais de la Porte Dorée, m'a parlé du travail d'Isabelle, et donc j'ai contacté Isabelle pour qu'elle puisse m'aider pour ce travail, et c'est comme ça notre première rencontre.
Mais qu'est-ce que vous lui aviez dit alors quand vous l'avez vu pour la première fois? J'ai envie d'essayer de faire de la dentelle.
Alors non, ça c'était avant la rencontre avec Fontanil, ouais. Avec la Scope Fontanil qui travaillait la dentelle. Ça c'était vraiment pour avoir un échange sur mes créations artistiques et voir elle en tant que scientifique comment ça pouvait résonner dans son travail, dans ses connaissances. Ensuite j'ai découvert la Scope Fontanil. En fait j'étais invité par HS Projet à une carte blanche à créer une installation à Clermont-Ferrand. Et c'est eux. Moi, je voulais faire une installation vraiment ancrée avec le territoire. Et donc, c'est eux qui m'ont parlé de la dentelle du Puy-en-Velay. Et donc, j'ai rencontré la Scope Fontanil. Et c'est pendant cette première visite à la Scope que j'ai découvert le point d'esprit qui ressemblait vraiment de manière frappante à un des squelettes coralliens que j'utilisais dans mes œuvres. Et du coup, les échanges que j'avais eus avec Isabelle aussi. Toutes ces connaissances accumulées m'ont fait donner envie ont fait naître l'idée de travailler la dentelle au sein d'un protocole de recherche artistique et scientifique et industrielle avec le corail.
Alors Isabelle de Marcoulon, on va justement discuter de votre apport hein. Ensuite. On va juste partir au Puy-en-Velay, on va écouter l'extrait d'un reportage justement autour de ce savoir-faire extraordinaire autour de la dentelle.
Dans cette usine installée au Puy-en-Velay, des employés travaillent actuellement sur un motif qui reproduit à l'identique le dessin du corail. Un mimétisme qui pourrait aider ce dernier, comme le ferait un tuteur. Depuis 150 ans, sur ces machines sont conçus des rubans et autres dentelles élastiques pour la lingerie et le monde médical. Mais dans les prochains mois, si les premières expériences grandeur nature s'avèrent concluantes, c'est un travail à une toute autre échelle qui pourrait se mettre en place pour l'usine auvergnate. Le plus surprenant, c'est que le modèle de dentelle choisi, le point d'esprit, a été inventé il y a 400 ans par un artisan qui, dans sa carrière, n'a probablement jamais vu de corail.
C'est trois fils avec un fil qui tisse comme ça les trois fils sur l'autre qui fait balancier et il faut se débrouiller pour lui donner une forme parfaite.
Ce n'est pas la première fois que les scientifiques s'intéressent à la dentelle. En médecine, les chirurgiens s'inspirent souvent de cette matière pour refabriquer notamment les ligaments du genou.
Voilà, c'était donc au Puy-en-Velay, reportage qui a été fait en mai dernier pour comprendre la chronologie des choses. Alors Isabelle de Marcoulon, comment vous avez phosphoré alors une fois que vous avez rencontré justement Jérémy là, avec votre rapport de biologiste?
Alors Jérémy m'a téléphoné, m'a demandé à me rencontrer. Il est arrivé dans mon bureau en novembre 2017, fin novembre 2017, en me montrant une petite bande tissée de dentelle. Et donc j'ai eu la même réflexe, la même approche qui était d'abord d'observer la forme de cette dentelle et de m'émerveiller en même temps, simultanément, parce que je trouvais ça esthétiquement très beau.
C'est extraordinaire, on a la photo là sous les yeux justement d'esprit.
En même temps, comme je suis un petit peu une déformation professionnelle, j'ai vu beaucoup de squelettes coralliens pour mon travail, j'ai tout de suite pensé à que ça me rappelait cette petite forme en roue en fait, c'est une symétrie qu'on appelle radiale, qui est caractéristique des coraux qui construisent nos récifs.
Oui. Donc, il y a eu cette analogie tout de suite.
Donc, c'est parti d'une observation d'une similitude de forme. Donc, en fait, une forme textile pour la dentelle et une forme de naturelle, d'un objet naturel qui est un squelette corallien.
Ouais. Et donc, vous avez brodé autour de cette idée.
Donc, en fait, j'ai sorti un livre de notre bibliothèque et j'ai montré à Jérémy, regarde, ça correspond au squelette formé par telle espèce corallienne. Enfin, ça ressemble beaucoup. Et de là est venu, ça jaillit en même temps pour tous les deux, on s'est dit, et si on essayait de faire pousser du corail sur ce support qui est cette dentelle, quoi.
Incroyable.
Donc c'est venu d'une idée un petit peu folle, qui vient au départ d'une information, d'une observation d'une forme.
C'est ça.
Et ça, c'est primordial.
Et alors, donc, Jérémy, ça collait parfaitement à votre centre d'intérêt aussi autour des coraux, là, pour le coup. Hein.
En fait, c'est même au-delà de ça, c'est que ce projet, il est l'exacte convergence de toutes les préoccupations que je pouvais avoir dans ma recherche artistique. Et parce que, en fait, la première dimension de ce projet, c'était de faire un lien entre art et science et de partager mes créations, enfin, mes recherches avec les recherches d'Isabelle. Ensuite, la deuxième dimension, ça a été de faire intervenir un industriel, une artisanale, donc la scope Fontanil. Ça, c'était et de créer un langage commun autour d'une idée, d'une hypothèse et d'un rêve.
Ouais.
Ensuite, la nouvelle dimension de ce projet, c'est de le rendre cohérent et concret. Donc, on poursuit avec Isabelle, Isabelle poursuit le protocole de recherche. Mmh. Et en parallèle, moi, ce que j'essaie de créer aussi, c'est des perspectives avec ce projet. Parce que des projets sur l'environnement, il y en a beaucoup. Mais moi, ce qui me plaît énormément dans ce projet, c'est que l'art, la science et l'industrie, séparément, ont tous des écueils. C'est-à-dire, par exemple, on entend tous les jours des avertissements scientifiques, factuels, mais sur l'état du corail, l'état de la planète, etc. Est-ce que pour autant, on arrive vraiment à faire changer les choses? C'est complexe. Les industries sont vues comme des gens qui veulent absolument faire du profit à partir d'un produit, mais forcément déconnecté de la réalité sociale. Et l'art contemporain est vu comme un milieu déconnecté de la société, des gens autour. On a vu les artistes contemporains, les plasticiens, un peu comme des albatros à la Baudelaire en dehors de la société. Et l'idée de rassembler ces trois domaines, je pense, en vase communicante, arrivent à gommer ces points négatifs et au contraire à nous porter vers un projet d'avenir.
Alors Isabelle de Marcoulon, vous, en tant que scientifique, en tant que biologiste, quand vous voyez arriver comme ça un artiste d'art contemporain avec ce projet, qu'est-ce que ça fait? Ça bouscule votre habitude dans votre laboratoire, ça donne au contraire plein d'énergie. Vous trouvez finalement une idée intéressante aussi pour essayer de répondre à la question du déclin des coraux, qui est quand même une question cruciale.
Alors ça me parle à plusieurs titres. À premier titre, c'est le côté artistique qui me parle parce que donc dans le cadre de mes travaux comme maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle, en fait, on est très sensible à la diffusion vers le large public et donc avoir une installation et une œuvre d'art qui fait penser à des objets d'histoire naturelle, ça fait un moyen de toucher, de sensibiliser
et de parler de ce que vous faites.
Voilà, et en l'attirant par l'émotion en fait, et puis avant de commencer à donner des explications, et puis après pour ce que ça fait, ce que ça m'a donné comme envie, c'était aussi la dentelle donc textile, c'est très délicat, ça demande beaucoup de travail. Et ben en fait le squelette corallien, c'est des formes très délicates aussi, qui demandent beaucoup de travail et beaucoup d'énergie au tissu vivant qu'il fabrique pour le faire. Et pour autant, ça donne la même symétrie, le motif répété qui s'accumule. Donc en fait, le corail, c'est un animal marin qui va en fait, qui est constitué d'une organisation très simple avec quatre feuillets cellulaires qui vont faire quelques millimètres à une dizaine de millimètres. Et ces quelques millimètres, donc ce tissu très fin, va être capable d'accumuler un squelette calcaire qui s'accumule sur des dizaines et des centaines d'années pour former le socle de ce qu'on appelle nos récifs. Et donc en fait tout ce travail, c'est ce qui me fascine, c'est que donc chaque espèce corallienne va produire un squelette qui a une forme caractéristique. Et en fait ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que la dentelle effectivement peut arriver à si vous voulez, est-ce qu'on peut utiliser la dentelle comme un tuteur, comme était dit dans ce reportage à la Fontanie, un tuteur, c'est-à-dire un support pour faire pousser des colonies coralliennes.
Donc, il faut imaginer ça comme une structure finalement en dentelle, laquelle les coraux vont pouvoir se développer.
Il ne s'agit pas de remplacer le corail par la dentelle, il s'agit de proposer un support comme un tuteur qui va permettre aux colonies de se fixer et de pousser.
Allez, une question de Corentin de Châtel-Perron.
Pourquoi est-ce que le corail fait une structure, un motif aussi complexe? Est-ce que parce que structurellement c'est ce qu'il y a de plus efficace, ou est-ce que c'est parce que, enfin, je sais pas.
Alors c'est une bonne question. Alors les différences de forme du squelette corallien, c'est lié à des capacités en fait à l'efficacité pour diriger les flux. Parce qu'en fait, le corail, il va se nourrir des particules en suspension dans l'eau, le plancton, et il va se nourrir aussi essentiellement les coraux des récifs tropicaux. Il va se nourrir et surtout grâce à la photosynthèse, c'est-à-dire la capacité de microalgues qui sont dans ces tissus de fabriquer des graisses et des sucres. Et donc en fait, les flux, pourquoi les formes différentes? C'est parce qu'en fait, ces formes différentes vont faciliter le flux d'eau autour du tissu corallien, et ce tissu il héberge les microalgues, et ces microalgues elles ont besoin de gaz carbonique, elles ont besoin d'échanges gazeux, et donc ce flux en fait va permettre à ces algues de faire leur travail et au corail de se nourrir.
Allez Jérémy, pour terminer, vous en êtes où là? Vous êtes dans la phase expérimentale, parce que le but c'est quoi? C'est de tester d'abord en aquarium et puis ensuite peut-être vraiment dans les fonds marins?
Alors c'est vraiment un cercle vertueux d'échanges. On a créé des motifs à partir de dessins artistiques, interpréter le corail de manière artistique. On a créé des dentelles. Mmh. On en a créé une installation monumentale artistique, et en même temps, en parallèle, on teste la dentelle en laboratoire. Donc, en gros, c'est des échanges entre Fontanil, Isabelle et
Donc Mézère. Ça va grandir, hein, ce ça projet grandit, va grandir. On peut les voir où en ce moment, ces dentelles?
Alors, en ce moment, vous avez une exposition, une installation monumentale qui est montrée au musée Bargoin à Clermont-Ferrand. Mmh. Et le 23 octobre, à la Villette, on a un stand de présentation du projet lors de Biomime Expo.
Eh bien, on va suivre ça très attentivement. En tout cas, l'idée nous plaît beaucoup. Corail Artefact, toutes les infos sont sur le site de La Tête au Carré.
Aucune pluie, aucun orage, aucune pompe à incendie n'éteindront ce feu qui ravage et consume ma vie. Je brûle, je flambe, je grille, je crame, dès que je vous vois, mes chéris. Je suis tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, tout feu, tout femme. Si vous me donnez l'eau de votre bouche, vous mettez de l'huile sur le feu. Si votre regard glacé me douche, cette glace me brûle encore mieux. À peine une brune aux yeux de braise vient-elle de m'incinérer, que je replonge dans la fournaise d'une blonde cendrée. Jusqu'au dernier tison de l'âme, toute ma vie je souffrirai d'être tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, tout feu, tout femme. Comme la neige, oh toi tu es pure, fraîche comme une source. Pourtant, éteins-moi vite sous tes couvertures. Je suis sur des charbons ardents. Je pourrais tomber dans un cratère, les flammes me laisseraient froid. Mais que passe la moindre bergère et je m'allume déjà. Soyez mes Jeanne d'Arc, mesdames, montez sur mon bûcher à moi qui suis tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, tout feu, tout femme.
Tout feu, tout femme, c'était en 63, Claude Nougaro.
Le club. sur France Inter.
Christophe Drénoux, vous êtes botaniste, spécialiste de l'arbre, amoureux de l'arbre, comme vous nous le disiez tout à l'heure, et vous publiez donc ce beau livre « Arbre, un botaniste au musée », c'est aux éditions Phage. On vous a souvent demandé donc quelle était l'origine de votre passion, hein, et vous dites simplement l'amour de l'arbre.
L'amour de l'arbre, oui, j'ai écrit plusieurs livres techniques ou de vulgarisation scientifique à l'attention des professionnels, pour que les professionnels aient une attitude respectueuse vis-à-vis des arbres. Et puis je dois avouer que quelquefois je suis découragé par les pratiques qu'on peut voir à gauche à droite. Et je me dis comment toucher un large public. Alors Isabelle disait tout à l'heure que la relation entre l'art et la science permet de mettre en avant l'émotion. C'est peut-être ça la clé du problème, c'est de mettre l'émotion. Il faut que l'émotion devance un petit peu les arguments rationnels. Et donc avec ce livre, je vais un petit peu au cœur de mon amour pour les arbres, ouais, la beauté des arbres.
Dont vous dites qu'ils sont des œuvres d'art à part entière, finalement. Hein,
c'est des œuvres d'art à part entière, comme les coraux, comme ce qui vient d'être dit. Et alors, le sujet, c'est la peinture, mais j'ai fait une exception pour un sculpteur italien.
Oui, c'est vrai.
Ça me semble important d'en parler, parce que ce sculpteur italien, qui est contemporain, qui s'appelle Gesù Pepenone, il fait ce qu'a dit Jérémy, c'est-à-dire qu'il fait le lien entre la science, la botanique, la nature, les arbres, et puis on peut dire même les produits manufacturés, parce qu'il part de poutres en bois, et puis il va retirer le bois, couche de bois par couche de bois, couche par cerne, parce qu'un arbre c'est une poupée russe constituée de centaines d'arbres empilés les uns dans les autres. Chaque année, l'arbre produit une nouvelle couche de bois par-dessus le bois de l'année précédente. Donc lui, il se contente d'enlever, d'éplucher le bois, on va dire, en respectant le rythme de croissance de l'arbre, pour faire apparaître, j'irais même renaître, l'arbre jeune tel qu'il était à l'origine. C'est-à-dire un axe effilé, vertical, et des étages de branches. Alors c'est non seulement c'est beau, mais c'est pédagogique.
Oui, parce que c'est toute la vie de l'arbre, finalement, qui se révèle, et sa genèse en particulier, effectivement, au travers de cette œuvre d'art. Voilà, on a l'image, là, oui. pour nos invités, pour voir un peu de quoi il s'agit. Jérémy Gobet, vous, en tant qu'artiste plasticien, ça doit vous parler, quand même, ça, ce qu'on voit là.
Oui, Pennone, c'est quand même une des figures phares de l'arte povera et puis de l'art contemporain. Et c'est vrai qu'en fait, d'avoir autour de cette table un projet d'économie des communs et en même temps de Pennone, ça montre bien que le lien entre passé, présent, futur, il est important. Et que je pense que l'art aussi a été un vecteur de restitution de la société, que ce soit dans le passé ou même parler de Mercure. C'est super aussi de se dire que les artistes projettent aussi des choses qui n'existent pas encore, qu'on ne peut pas visualiser. Donc c'est vraiment cette transmission entre passé, présent, futur qui est importante.
Christophe Drénoux, comment vous avez fait le choix justement de ces œuvres, de ces tableaux donc qu'on voit ici, depuis d'ailleurs l'art pariétal jusqu'à des choses très modernes, parce que finalement l'arbre a été pas mal représenté. Vous dites qu'il y a quand même de très grands artistes qui ont mis un peu l'arbre de côté, comme Picasso, je crois. Hein.
Oui, c'est vrai que Picasso, il faut vraiment chercher des représentations d'arbres chez Picasso ou chez Dali, par exemple. Ouais.
Alors qu'il y en a beaucoup chez Van Gogh.
Alors Van Gogh, lui, oui, il a énormément peint les arbres. Camille Corot aussi, c'est vraiment des l'artiste allemand Caspar David Friedrich également. Alors toute cette partie de collecte d'œuvres, ça a pris énormément de temps, c'était passionnant. Alors il y a le choix des arbres, évidemment, le choix des œuvres, il y a une part de subjectivité, mais je me suis imposé trois règles. La première, ça a été de pas multiplier le nombre d'œuvres par artiste, une, deux maximum. Mmh. Et la deuxième, c'était, bon, je suis un amateur d'art, je voulais pas que le livre prenne une tournure académique en passant en revue les différents mouvements artistiques, romantisme, impressionnisme, etc. Donc j'ai cherché des points communs entre, ça peut paraître absurde, entre les arbres et les peintres. Et en fait, les arbres et les peintres se ressemblent, en quelque sorte, par rapport à leur relation à la lumière, par exemple, ou la relation à la mort. La lumière est vitale pour les arbres, évidemment. On a parlé de photosynthèse avec les coraux. Les arbres utilisent plein de stratégies pour rechercher la lumière, font des contorsions incroyables pour rechercher la lumière. Et les peintres, pour les peintres, la lumière, c'est une quête incessante. Et les peintres passent leur vie à voyager, à chercher différentes lumières. Beaucoup de peintres ont été attirés par la lumière du Sud, Afrique du Nord, Italie. Turner, par exemple, a quitté la grisaille de Londres pour aller à Rome. Et puis, il a tellement été ébloui par la lumière qu'il est resté 10 ans en Italie. Van Gogh évidemment en Provence, etc. La lumière et la mort, parce que l'arbre, aussi bien que l'artiste, défie la mort. L'arbre, c'est l'être vivant qui vit le plus longtemps au monde, hein, 5 siècles, 1000 ans, c'est rien. Et puis pour l'artiste, eh ben l'artiste défie la mort à travers ses œuvres, parce que ses œuvres sont destinées à la postérité. Mmh. Voilà. Donc j'ai essayé de trouver des thèmes qui reliaient cet organisme vivant qu'est l'arbre. Et puis l'autre organisme vivant qui est le peintre.
C'est ça. Mais vous, en tant que botaniste, finalement, c'est pas tant l'aspect scientifique qui vous intéresse, c'est vraiment l'aspect esthétique, émotionnel que procure justement la représentation de l'arbre dans la peinture.
Oui, j'ai été à la quête de ce moteur-là. Qu'est-ce qui m'anime ? Pourquoi je suis tellement attiré par les arbres ? Donc c'est leur beauté. Mais avec ce travail, je me suis rendu compte que, en fait, le point commun, une petite parenthèse, entre un botaniste et un peintre, c'est le dessin. Parce que le dessin, c'est non seulement un mode de représentation, mais c'est un moyen d'observer. Mmh. Pour bien observer, il faut dessiner. Donc voilà, j'étais attiré par... Et puis je me rends compte que les peintres n'ont pas fait que représenter les arbres, ils ont essayé de les comprendre, les penser, et puis quelquefois, ils devancent les chercheurs pour certaines observations.
Très beau dessin d'arbre de Léonard de Vinci, par exemple, qu'on retrouve dans votre ouvrage. Et puis également Rembrandt, il y a de très belles choses là-dessus.
Oui, Léonard de Vinci, bon là, on est vraiment... Il n'y a pas de frontière avec lui entre l'art et la science. Hein. Et pour les arbres, il a proposé une formule, la formule de l'arbre de Léonard Vinci, mathématique. On va peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement que la section d'une branche, la surface de cette section, est égale à la somme des sections des branches qui en dérivent. Et ça, c'était une hypothèse. Elle a été démontrée il y a quelques années par un mathématicien français, Frédéric Lenoir, et qui a montré que c'est une optimisation par rapport au vent.
Voilà. Magritte, il y a aussi de très belles choses hein, autour de l'arbre scié. Alors là, c'est une autre vision. Hein, c'est les travaux d'Alexandre, justement, oui. En 1950. Hein, cette
1950,
peinture.
Magritte... à la radio, c'est pas facile de décrire un tableau, mais celui-là, il est facile parce qu'il n'y a pas grand-chose. L'arbre a été coupé, il reste plus qu'une souche avec des contreforts, quelques racines et à côté une hache. On devine que la hache a servi à couper l'arbre. Bon, rien d'extraordinaire, c'est assez banal. Sauf que un détail près, c'est là le génie surréaliste de Magritte, c'est que une racine de la souche passe par-dessus la hache, emprisonne la hache, plaque la hache au sol. Et donc ça veut dire que Magritte donne le dernier mot à l'arbre. L'arbre reste vivant après l'abattage. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que biologiquement Magritte ne devait pas le savoir, mais biologiquement c'est possible. C'est parce que les arbres d'une même espèce sont connectés par leurs racines, sont soudés. Donc on voit ça en forêt, après l'abattage d'un arbre, même lorsqu'il n'y a pas de production de feuilles, le pourtour de la souche est vivant et recouvre la plaie.
Isabelle de Marcoulon, là-dessus ?
Non, mais je suis fascinée par cette recherche entre la forme et puis la fonction aussi, puisque vous disiez que vous parliez tout à l'heure ces arbres, ces formes qui... Enfin, pour moi, quand je vois des photos de votre livre, je vois du bois. Et en fait, le bois, c'est ce qui va conduire aussi la sève. Donc en fait, c'est comment est-ce que vous faites le lien entre... Ma question, c'est comment vous faites le lien entre... Est-ce que vous intéressez autant aux racines et aux feuilles que vous intéressez au tronc, proprement dit ?
Moi, dans mon métier, je m'intéresse à l'arbre parlé debout, je dirais. Les artistes... c'est vrai que la partie racinaire, c'est la partie cachée. Alors donc, elle est moins représentée. Ceci dit, lorsqu'on s'intéresse aux racines et qu'on voit que tout ce partie racinaire fait une trame d'axes dans tous les sens, on se rapproche de l'abstraction, de l'art abstrait de Piet Mondrian, par exemple. Un système racinaire quadrille le sol.
Oui, puisqu'on voit ce tableau de Mondrian, on se dit, mais où est l'arbre, d'ailleurs, dans ce tableau
Où est l'arbre ? Mais en fait, c'est une abstraction. Et le point de départ, c'est un arbre qui, à force d'être dessiné, il a fait toute une série, à chaque fois en simplifiant, en gardant que les axes verticaux, horizontaux, etc. Il aurait pu faire ça à partir de racines. On arrive à un réseau abstrait.
Et alors les peintures rupestres pour terminer, parce qu'il y a aussi une représentation d'un dessin retrouvé au Texas, hein, c'est ça, dans un canyon.
Oui.
Donc les hommes préhistoriques avaient aussi envie de représenter l'arbre.
Oui, les tribus préhistoriques qui vivaient de cueillette, forcément, pour eux l'arbre fruitier était très important. Donc ils ont stylisé des arbres. Et alors ce qui est frappant, c'est que contrairement à la science qui progresse sans arrêt, on peut dire qu'en art, il n'y a pas de progrès. ces représentations sont très en tout point comparables à certaines représentations qu'a fait Klee de sapin d'une façon très très stylisée. Alors l'art finalement c'est une approche un peu l'art transcende la réalité et à toutes les époques on a cette émotion qui ressort du travail des artistes.
Et ils sont très nombreux justement dans cet ouvrage puisque vous les avez regroupés autour des arbres. Ça s'appelle Un botaniste au musée, c'est aux éditions Phage et vous en êtes l'auteur, Christophe Drinou. Merci beaucoup d'être venu depuis Toulouse pour nous en parler cet après-midi. Merci beaucoup à toutes et à tous. Toutes les infos sur les sujets dont nous avons parlé, les expos, les documentaires sur Arte, c'est sur le lien de La Tête au Carré. Bon week-end.